Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Philippe Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
Cube Radio.
À Trois-Rivières, on est dans les derniers moments de ce procès de la belle-mère de la fillette de Granby. C'est au tour des avocats de faire leur plaidoirie finale. Ça sera bientôt dans les mains du jury. On en parle avec Antoine Lacroix, journaliste au Journal de Montréal. Salut Antoine.
Salut.
Alors, on en est où là dans ce procès-là? Il reste quelques jours peut-être avant qu'on connaisse le verdict?
Il reste possiblement une ou deux journées. Là. Aujourd'hui, c'est au tour du juge d'émettre ses directives au jury. Donc, c'est là qu'il va faire le tour de la preuve et remettre un arbre décisionnel au jury pour selon les différents verdicts auxquels ils peuvent arriver. Et hier, c'était à la couronne là, de plaider et de convaincre le jury avec ses derniers arguments là, la culpabilité là, de la belle-mère.
Mais justement, revenons sur les deux plaidoiries finales, sur la défense, sur la couronne. On sent que la couronne, oui. Hier, c'est quoi la théorie, c'est quoi la version que la couronne espère que les jurys vont à laquelle les jurys vont adhérer là?
Ben écoute, lundi, c'était la défense, et la défense a comme laissé planer un doute sur la culpabilité de la belle-mère. Donc, c'était le travail un peu de la couronne de venir fermer, si on peut dire, ces portes-là de doute que le jury pourrait avoir. Et disons que le procureur de la couronne, Jean-Sébastien Bussière, a frappé fort là, au niveau de l'imaginaire des jurys avec une lecture de textos envoyés par la belle-mère dans les mois qui ont précédé le drame. Et un à un, il a défilé les textos et là-dedans, là, lui, ce qu'il veut faire comprendre au jury, c'est que la belle-mère avait une certaine aversion, là, un dégoût pour la fillette. Et je suis vraiment désolé, mais je vais devoir faire une petite lecture un peu là, de ce qui a été dit. Mettons, le 14 janvier 2019, elle va dire que l'enfant veut pas full me voir, face de constipé, je l'envoie dans sa chambre. Le 15 mars 2019, je suis désolé, mais elle me décourage royalement, désolé, mais je ne suis pas capable de la regarder, juste sa face me décourage. Le 2 avril 2019, elle me fait chier. 9 avril, ça c'est 20 jours avant le drame, je suis outré par tout ça, je n'arrive pas à la sortir, elle me lève le cœur. Disons que c'est assez évocateur. Hein?
Parce que ça, dans le fond, la couronne a relu ça parce que l'objectif de la défense, c'était d'amener un doute raisonnable. Donc, de dire, regardez, il y a eu des agissements qui ne sont pas acceptables à l'époque, mais est-ce que c'est vraiment elle qui a tué, donc qui a causé la mort de la jeune fille de Granby ou pas? C'était un peu le doute qu'on essaie d'installer, là.
Exactement. Alors, en fait, on venait de dire, est-ce que c'est vraiment la belle-mère par certains gestes qui a réellement causé la mort de la fillette. Puis, durant son témoignage, la belle-mère avait dit qu'elle l'adorait, qu'elle l'aimait beaucoup et tout ça. Et c'est un peu pour briser la crédibilité de la belle-mère que le maître Bussière est venu dire au jury, demandez-vous si c'est vrai quand elle vous dit qu'elle l'aimait. Et lui, ce qu'il est venu dire, c'est que la belle-mère, elle était exaspérée de devoir composer avec cet enfant-là. Qui criait et qu'elle va aller ajouter plusieurs couches de ruban adhésif. Et on se rappelle que la belle-mère avait aussi envoyé un texto comme quoi elle l'avait attaché bien comme il faut. Et la théorie de la couronne, c'est que justement, c'est en venant l'attacher bien comme il faut, notamment au niveau du visage, que ça a causé la mort de l'enfant. Et une des explications, c'est que bien que la belle-mère a juré à de multiples reprises qu'elle n'avait jamais mis du ruban adhésif sur ses voies respiratoires, donc son nez, sa bouche, il n'est pas impossible que le ruban qu'elle avait mis sur le visage ait fini par glisser. Parce qu'on s'entend, cet enfant-là se débattait beaucoup pour se sortir de cette position-là qui n'a juste pas de bon sens. Et il n'est pas impossible que ce ruban-là ait fini par couvrir ses voies respiratoires. Puis c'est sûr que le jury va devoir déterminer c'est qu'est-ce qui est réellement arrivé le 29 avril 2019, de quelle façon elle est décédée. Et selon la théorie à laquelle ils vont adhérer, ben ça va arriver avec un verdict différent, là.
Ouais, puis rappelons que dans cette affaire-là, il y a quand même un important, en fait, une ordonnance là, des tribunaux où on ne peut pas rapporter plusieurs témoignages, on ne peut pas rapporter l'identité de plusieurs personnes qui sont impliquées dans cette affaire-là. La femme qui a 38 ans aujourd'hui est accusée de meurtre non prémédité, de séquestration. Donc le juge aujourd'hui va à peu près dire au jury, voici les possibilités. Là, vous pouvez la reconnaître coupable de ça, non coupable de ça. Voici comment ça fonctionne. Puis après ça, eux vont entrer dans une pièce fermée pour en sortir uniquement lorsqu'il va y avoir une décision ou lorsqu'il va y avoir des questions. Là.
Exactement. Donc là, le juge, en fait, va leur dire, si vous pensez ça, et tu sais, un peu une suite de questions, ben ça donne tel verdict. Si vous arrivez à telle conclusion, c'est un autre verdict. Et ben là, c'est ça, une fois que il va avoir émis ses instructions finales au jury, là, en ce moment, il y a 14 personnes dans le jury. Il va falloir en retrancher deux selon la loi, parce que c'est une délibération à 12 ouais. personnes. C'est un tirage au sort. Et là, ces 12 personnes-là vont être séquestrées jusqu'à ce qu'il arrive un verdict unanime. Et ben, ça peut prendre quelques jours, comme ça peut prendre une journée. Dans un cas comme ça, c'est un peu difficile de prévoir la durée des délibérations du jury.
Antoine, tu vas être là pour nous. Merci d'avoir été là ce matin.
Ben merci.
Salut.